n'y a pas besoin d'opposer la nature à l'économie, l'humain à l'économie, tout ça doit aller de pair.
J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut.
Seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis.
L'envers du décor est très précieux, ça vous apprend beaucoup sur les êtres et sur leur manière de se comporter.
Après, les questions s'arrêtent, on revient à son exercice, à son métier, quoi, et on fait ce qu'on doit faire.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 3 de Secrets de dirigeants. Il restera comme la figure des années les plus noires de l'histoire de France. Plus encore que le visage des terroristes, c'est lui qui, en apparaissant à chaque attentat, nous rassurait, même s'il venait annoncer des choses horribles.
François Molins, aujourd'hui retraité, et j'étais procureur général honoraire après la Cour de cassation.
Sa longue silhouette, ses cheveux courts, ses grands yeux bleus nous deviennent familiers. À chaque attentat, il revient inlassablement donner des chiffres, des détails, des explications factuelles, mais sous le discours, on sentait bien la sensibilité de l'homme. De ses 46 ans passés au service de la justice, il a fait un livre de mémoire, baptisé sobrement « Au nom du peuple français », publié chez Flammarion. Une notoriété qui lui est tombée dessus en mars 2012, lorsqu'il vient, en pleine affaire Mera, tenter d'expliquer l'inexplicable et surtout l'inacceptable.
C'est un modèle qui n'en était pas vraiment un, parce que la première conférence de mars 2012, c'est pas un modèle justement du genre. Hein. J'avais fait pas mal d'erreurs. Pour tout dire, c'était pas très pro. J'ai retrouvé les notes manuscrites que j'avais, que j'ai même du mal à relire. Il y a certains mots que j'arrive pas à relire aujourd'hui, 10 ans après. Donc vraiment, non, moi je l'ai toujours conçu comme un moment où on raconte une histoire. En réalité, alors d'abord c'est une parole de procureur. Donc il faut qu'elle obéisse à une éthique, qu'elle respecte la présomption d'innocence, qu'elle respecte la dignité des victimes, qu'elle essaie de préserver la confidentialité des investigations, et puis surtout qu'elle ait un ton et une réalité d'objectivité, de neutralité, et bien sûr de clarté et de rigueur. Je savais qu'il fallait arriver à ça, et puis on s'est professionnalisé vite, hein, d'ailleurs, hein, assez vite, parce que j'étais entouré de collègues qui étaient très compétents, mais le premier n'est pas du tout un modèle, hein. Donc effectivement, un moment où même s'il y a eu beaucoup de fuites dans la presse, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, le procureur va s'exprimer pour raconter une histoire et remettre du sens et de l'ordre dans tout ça. Parce qu'effectivement, c'est nécessaire, de façon à ce que nos concitoyens comprennent en réalité ce qui se passe et soient en mesure de se rendre compte que ils savent déjà, et puis surtout se rendre compte que le problème est traité, que l'enquête avance, et que la police judiciaire et la justice font leur travail.
Vous donnez aussi beaucoup de détails. Alors, à la fois, ça nourrit et ça ferme peut-être les portes aux fantasmes. À la fois, après, des fois, on ne sait pas si tout est toujours utile.
On voulait donner de la chair. Illustrer certaines choses, mais les détails sont jamais des détails capitaux pour l'enquête.
L'idée, c'est de donner l'impression qu'on informe, mais garder...
Oui, moi, je préfère donner de la chair, parce que, c'était peut-être un peu coquin. Ça participe d'une bonne intention, mais c'est vrai que les détails sont pas capitaux pour l'enquête. Donc, les détails, on les donne pour donner de la chair au récit, et puis avoir quelque chose d'un peu plus détaillé et un peu plus narratif.
Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on se retrouve face à 300 journalistes?
C'est très impressionnant. C'est très impressionnant, surtout qu'ils venaient du monde entier, de tous les continents. On essaie de répondre au mieux et là aussi, la première fois, il m'est arrivé de revoir les images de cette conférence de presse Mera. C'est pas là que j'ai été le meilleur. Hein. Il y a un moment d'ailleurs où j'ai dit maintenant ça suffit, j'ai déjà répondu, on tourne. Il faut dire que le dossier est embêtant, quoi, parce que en termes de communication, c'est un dossier sur lequel on sait et, de toute façon que il sera forcément difficile de communiquer, puisqu'il y a une sorte de faille des services de renseignement qui suivaient Mera et qui n'ont pas été capables de détecter ces projets terroristes criminels. Donc l'exercice est forcément compliqué. Et à travers les questions, effectivement, on voyait bien que des tas de journalistes voulaient savoir ce qui s'était passé et comment, pourquoi et comment on était passé à côté.
Le 7 janvier 2015, ça fait 3 ans que vous êtes en poste. On vous prévient qu'il s'est passé quelque chose à Charlie Hebdo. Mmh. Vous allez sur place, c'est votre travail. Vous arrivez dans les premiers avec les secours. Vous avez un peu plus de 60 ans, vous avez déjà beaucoup d'expérience, vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous arrivez sur place et comment on fait pour trouver la bonne distance, pour mettre une distance et pour pas être submergé par l'émotion ?
Oui, en fait, on ne se pose pas vraiment de questions et on ne réfléchit pas à ces choses-là. Hein. C'est sûr que déjà, l'entrée dans l'immeuble donnait un avant-goût, entre guillemets, de ce que j'allais voir. Hein. Je crois que je n'ai jamais ressenti, peut-être parce que c'était fermé, effectivement, ce n'était pas aéré, jamais ressenti une telle odeur mêlée de sang et de poudre, mais surtout de sang. Les émotions, je les gère avec une technique à moi. Hein. Je m'isole dans ma tête quelques minutes, quelques instants, je me recueille. Et je fais toujours comme ça. Et puis après, les questions s'arrêtent, on revient à son exercice, à son métier, quoi, et on fait ce qu'on doit faire.
Est-ce que ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est aussi ce qui vous sert de moteur ensuite ?
Moi, je disais, j'ai jamais ressenti de rage ou de haine sur ces choses-là. Par contre, c'est sûr que ce genre d'affaires et la vision de ce genre de scène, ça vous fait mesurer l'importance des enjeux auxquels vous êtes confrontés et que vous allez devoir relever parce que c'est un vrai défi, hein, et puis un défi qui va durer 2 semaines. Hein. Donc, il faut être à la hauteur et on n'a pas le choix. Hein.
Ensuite, les choses s'accélèrent. Il y a le meurtre de la policière à Montrouge, l'assaut à Dammartin en Goële, ouais. L'hypercachère. Là, on découvre une nouvelle forme de terrorisme qui est un terrorisme coordonné. Ouais. On monte d'un cran dans l'organisation des attentats. Est-ce que vous y attendiez ? Est-ce que vous y étiez préparé ?
Alors, j'explique dans le livre, c'est pas complètement une surprise, Charlie Hebdo, parce que compte tenu des menaces qui étaient faites contre Charb et l'équipe de Charlie Hebdo et la protection policière hyper renforcée dont ils bénéficiaient, le risque terroriste, il planait là-dessus depuis des années. Donc, c'est pas une surprise totale. Ce qui est par contre beaucoup plus nouveau, c'est le fait de se trouver face à 2 équipes qui agissent de façon concomitante et qui ont coordonné leurs actions. Et ça, en France, on l'avait jamais vu. De mémoire, c'est arrivé pour moi une fois dans le terrorisme international, 2 fois. Mais sans prise d'otage. C'est les attentats du 11 septembre. Il n'y a pas de prise d'otage.
Enfin, il y a une forme de prise d'otage dans les avions.
Aussi dans les avions, oui. Et puis les attentats de Bombay. Mais en France, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu à gérer ce genre de situation. Donc, c'est une première.
Et donc, c'est aussi une surprise.
Oui, de ce côté-là, on s'attendait pas.
C'est une difficulté d'anticipation.
Le jour, effectivement, où Amédi Coulibaly rentre à l'hypercachère en expliquant que son action est coordonnée avec celle des frères Kouachi, qu'il a des otages et que si on donne l'assaut à Dammartin, il va tuer ses otages à lui. C'est compliqué.
En plus, c'est un moment un peu particulier parce que les chaînes d'infos se sont énormément développées.
Ouais.
Et vous dites notamment à Dammartin Goële, vous essayez de joindre le patron de l'imprimerie dans lequel sont les frères Kouachi et la ligne est occupée en permanence jusqu'au moment où quelqu'un vous signale qu'en fait, si la ligne est occupée, c'est parce qu'il est en ligne avec des journalistes.
Charlie Hebdo, l'hypercachère, ça signe une forme de faille éthique. De failles éthiques de certains organes de presse. Il y a des organes de presse qui ont très bien fonctionné, qui ont compris les enjeux de la gestion médiatique de ce genre d'événements.
C'est-à-dire de pas donner de l'information qui peut être utilisée.
Qui ont créé des comités d'éthique à l'intérieur pour réfléchir à jusqu'où ils pouvaient aller. Et puis il y en a d'autres, et notamment certaines chaînes d'information continue, qui ont fait n'importe quoi. Qui ont gêné les investigations, qui ont divulgué des informations qui étaient fausses, hein, sans avoir pris la peine de les vérifier auprès du parquet, et qui, effectivement, ça c'est le bouquet, ont bloqué la ligne téléphonique de l'imprimerie à un long moment pour interviewer les frères Kouachi. Tout ça, ça a été condamné clairement. Hein. Moi, je rappelle toujours que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en octobre 2016, il a diffusé un code de conduite qui interdit ce genre de choses, hein. Et qui interdit, en réalité, de chercher à rentrer en contact avec les terroristes et un journaliste, et en leur disant, vous ne devez pas le faire, et si par hasard, vous étiez mis en contact avec eux, vous devez tout de suite appeler les services de police ou de gendarmerie.
Oui,
et
puis il y avait aussi cette difficulté, notamment pour l'hypercachère, il y avait des télévisions partout qui filmaient et qui retransmettaient en direct et que le terroriste regardait sur son téléphone. Donc c'est extrêmement compliqué en plus d'évoluer au milieu de ce système-là. À chaque fois, vous êtes en première ligne. Lorsque vous apparaissez à la télévision, à la fois les Français sont rassurés, mais à la fois les Français se disent aussi qu'il y a un truc particulier qui vient de se passer et qui est assez grave. Ouais. Comment vous vivez-vous cette espèce d'étrange notoriété ? Parce que ça non plus, c'est pas naturel.
Alors,
dans la vie d'un
procureur. J'y ai pas pensé avant. Je me suis rendu compte très vite, dès la première conférence de presse. Parce que la conférence de presse de Mera, par exemple, elle a été diffusée dans le monde entier. Hein. Il y avait des journalistes partout. Donc j'ai mesuré l'exposition médiatique, mais j'allais dire, je l'ai subi, j'ai fait avec, parce que j'avais pas le choix. façon, il fallait communiquer. Il n'y avait pas de candidat à m'embarquer. Puis, de toute façon, moi, je trouve que c'est au chef d'assumer ces choses-là, parce que quand on communique comme ça, on s'expose. Et c'est au chef à donner l'exemple, à s'exposer. C'est pas, il n'a pas affaire à s'exposer, c'est subordonné. Donc, la notoriété, je ne l'ai pas recherchée. Elle est venue toute seule. Hein, c'est un peu le pendant obligé de ces exercices. Puis, je me suis habitué à vivre avec. Hein.
Les gens vous disent que c'était rassurant de vous voir à cette époque-là.
Oui.
C'était des choses qu'on vous avait déjà dit dans votre vie avant?
Non. Non, avant j'étais...
Vous êtes devenu rassurant
avant,
au moment où tout
avant,
était...
Avant j'étais dans l'anonymat complet, ça m'allait très bien.
Ce que l'on comprend, c'est qu'à chaque nouvel événement, il y a un dispositif incroyable qui se met en place en coulisses pendant plusieurs semaines, 24 heures sur 24, avec des cellules qui se créent, et que à chaque nouvel attentat, le dispositif évolue pour devenir de plus en plus efficace en fait.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à un moment donné à être suffisamment au niveau ou est-ce que vous avez l'impression que vous courez toujours derrière?
Non, il faut être au niveau. C'est un peu des deux. On court toujours un peu derrière parce que de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Hein, le dispositif parfait, on n'y arrivera pas. Donc on court effectivement toujours après la perfection. Mais sans pouvoir malheureusement jamais l'atteindre et on l'atteindra jamais. Effectivement, ce sont des événements hors normes. Et qui nécessite des dispositifs hors normes, en termes d'organisation et de fonctionnement.
J'imagine que ça crée aussi des liens entre les équipes.
Oui. Et pour un parquet, la seule façon d'arriver à ça, c'est ce système de cellules de crise, où en fait, on renforçait la section antiterroriste. On avait, avec les renforts, on était 30-35 magistrats, une dizaine de greffiers, et ça nous permettait d'assumer toutes nos compétences et de faire fonctionner la cellule 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'avais même fait installer des lits de camp.
Oui, pour que vous puissiez dormir un peu.
Les repas étaient livrés.
Alors c'est une justice de guerre.
Ça crée des liens, effectivement, parce que ça renforce encore l'esprit d'équipe.
Ça accélère.
Hein, ça suscite encore plus de liens de confiance et de solidarité entre les équipes. Et puis, j'allais dire, ça finit par les transcender, les équipes, parce qu'on s'aperçoit qu'ensemble, tous, on est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Et c'est intéressant de ce point de vue-là.
Comment vous leur annoncez à ces équipes qu'il va falloir qu'ils se reforment et qu'ils se remettent en task force en fait?
Le process, il est hyper rigoureux. Moi, j'ai pris la décision de création de la cellule de crise au moment où j'étais encore sur les lieux. Donc la cellule de crise, elle s'est mise en place immédiatement, sans même attendre que je rentre. Donc en réalité, quand j'ai rejoint le parquet, moi, c'était le soir de vendredi 13, par exemple, c'était 3h ou 3h30 du matin, la cellule de crise, elle était en place, tout fonctionnait parfaitement depuis minuit ou de 11h30 ou minuit. Donc c'est ça, un organisme qui est bien, c'est qu'il y a des protocoles de travail qui sont connus, qui sont efficaces, et le système peut fonctionner sans que le chef soit là. Les discours, je les ai faits après, mais sur toute la durée de la cellule de crise, pendant 11 ou 12 jours, j'étais là en quasi-permanence. Hein. Je passais l'essentiel de mon temps dans la cellule de crise pour m'assurer que tout fonctionnait bien et tout allait bien. Et c'est seulement en cas de difficulté que j'intervenais.
Le sommet de l'horreur, c'est le 13 novembre. Il y a l'attentat du Stade de France, et puis il y a les terrasses, le Bataclan. À chaque fois, une fois encore, vous arrivez parmi les premiers. Là, vous avez déjà vécu plusieurs attentats. Vous préparez comment avant d'y aller? Et qu'est-ce que vous faites en arrivant?
On se prépare pas... Il n'y a pas de préparation psychologique. Hein. De toute façon, on se doute de ce qu'on va voir. Hein. Moi, j'ai vu comme ça 3 scènes de crime sur les terrasses. Puis après, je suis arrivé au Bataclan. De toute façon, je ne pouvais pas imaginer que j'allais voir un spectacle comme ça, moi. Hein. Et que d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter.
Vous y êtes retourné plusieurs fois, parce que vous n'arriviez pas à y croire.
Oui. Je pense que je me suis beaucoup demandé longtemps pourquoi j'étais rentré 3 fois, parce que une fois suffisait. Mais je pense que en réalité, c'est parce que je ne peux pas croire que c'est vrai.
Vous décrivez aussi...
Je refuse, c'est une forme de déni.
Mais vous n'avez pas le loisir de pouvoir avoir un déni.
Oui, mais vous savez...
Ça devient trop fort.
C'est dans la tête, ça devient trop fort.
Vous dites aussi qu'il y a une difficulté derrière à mettre en place, c'est tout le système qui doit prévenir les familles, qui doit permettre la suite, en fait. Vous dites, on n'était pas prêt pour ça.
Non, on n'était pas prêt parce qu'on n'avait jamais eu un attentat de masse comme ça en France. Et que, on était d'autant moins prêts que la nouvelle instruction ministérielle sur les dispositifs d'aide aux victimes était sortie la veille au soir.
Donc personne ne la connaissait.
Et puis on n'était pas préparé à ça. Donc effectivement, on avait progressé sur Charlie Hebdo, après Charlie Hebdo sur certaines choses, parce qu'on avait fait nos retours d'expérience. Mais là, il y a un certain nombre de choses qui ont dysfonctionné jusqu'au samedi en milieu de matinée. parce que il y avait deux numéros différents entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Les gens ne savaient pas où ils étaient. Je pense qu'il y a des tas de gens du Bataclan et des terrasses qui sont rentrés chez eux sans forcément être pris en charge immédiatement. Voilà, donc, mais ça signe aussi les marges de progression à réaliser en termes de prise en charge. Hein.
Et maintenant, on est plus
prêt. À l'époque, on avait mis le doigt sur ce qui marchait pas, on avait corrigé ce qui devait l'être, et honnêtement, les gens ont été beaucoup mieux pris en charge sur l'attentat de Nice que V13. On n'a pas eu tous ces ennuis sur Nice, mais il y en a eu d'autres qu'on n'avait pas prévu avec ces fameux prélèvements d'organes. Mais sinon, globalement, sur les dispositifs pris en charge des victimes, Nice s'est quand même passé de façon beaucoup plus fluide. On n'a pas rencontré les problèmes qu'on avait rencontrés à vendredi 13.
Vous dites aussi que vous mettez en place un suivi psychologique pour les magistrats.
Ouais.
Parce que ça, j'imagine, soit encore, on n'est pas prêt pour ça. Et vous leur demandez aussi de faire une formation au premier secours, dans un contexte de guerre. Mmh. Ça, c'est important aussi parce que quand on arrive, j'imagine qu'on n'est pas tout à fait acteur tout de suite. Là, ça permet de reprendre la main aussi.
Oui, alors après, on n'est pas là pour soigner, hein, mais c'est vrai que dans des circonstances comme ça, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un maximum de Français qui soient formés au premier secours. Donc, vu les situations dans lesquelles on était, il y avait cette opportunité qui se présentait. Moi, je trouvais que c'était intéressant, sur un plan civique et humain, d'apprendre les premiers gestes à moi. J'ai appris, hein, j'étais aussi, et à mes collègues, ça peut toujours servir. Et puis, si un jour, vous avez quelqu'un à côté de vous qui tombe et qu'il faut lui faire un massage cardiaque, ben, il vaut mieux avoir appris à le faire.
Vous dites à ce moment-là que vous vivez dans l'angoisse permanente qu'il y a un nouvel attentat.
Ouais, ouais. Ça revenait, c'est une sorte de spirale.
Il y avait une périodicité en plus.
Oui, oui, on avait, après 2015, pendant 3 ans, on a à peu près un attentat ou un projet d'attentat toutes les 5 à 6 semaines. Donc effectivement, quand on arrivait à 4-5 semaines, on se disait, bon, mais ça fait 4-5 semaines qu'on n'a rien eu, qu'est-ce qui va nous arriver? Et effectivement, quelque chose arrivait assez vite. Et ça a duré plus de 2 ans. Donc en fait, on avait l'impression, quelque part, d'être dans une sorte de spirale infernale, très anxiogène, dont on n'arrivait pas à sortir, une sorte de rouleau compresseur.
Oui, parce qu'après, il y a encore Magnonville, l'attentat de Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, l'attentat des Champs-Élysées, le super rue de Trèbes, qui en plus se termine d'une manière terrible parce qu'il y a...
Et les autres dont on parle pas.
Et les autres, tous les autres qui ont été déjoués et dont on n'a pas forcément eu connaissance. Quand vous sortez de cette période-là, vous sortez quoi? Rincé, comme on sort à la fin d'un cycle d'essorage à Messines-Lavé?
On est très fatigué quand on sort de ces périodes. Hein. Le pire, c'est quand vous sortez de cellules de crise, hein, où pendant 11, 12, 13 jours, vous n'avez quasiment pas dormi. Et on tient en fait nerveusement, hein, mais on sent qu'on arrive au bout, quoi. Et qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Comment vous faites pour traverser tout ça avec votre entourage, votre famille? Votre femme est greffière, donc il y a des choses qu'elle connaît, j'imagine, qu'elle comprend.
Oui, mais on ne parlait pas. Moi, je parlais très peu de travail, moi, à la maison. Hein.
Quand vous rentriez donc, à la maison?
Oui, oui.
Ce n'était pas souvent non plus?
Si, j'avais un équilibre de vie. Bon, à cette époque-là, non. Hein. Ce qui m'a certainement aidé, c'est d'avoir un équilibre de vie familiale, hein, avec une épouse compréhensive et... qui faisait tout pour m'éviter tous les petits tracas. Hein.
Les fuites du voisin du dessus, les soucis d'intendance.
C'est des époques où je ne gérais strictement plus rien à la maison. Hein.
Pendant 46 ans, vous n'avez cessé, pendant toute votre carrière, de lutter pour l'indépendance de la justice. Mmh. À tous les niveaux politiques, je pense à l'affaire Tapie, à l'affaire Big Malion, à Cahuzac, à l'affaire Benalla. Comment vous expliquez qu'au bout de 46 ans, vous soyez encore obligé de vous défendre, de défendre votre indépendance? On connaît votre réputation, on connaît votre palmarès.
Mais si vous voulez, ça signe peut-être une certaine vision de la justice qui continue, quoi. Hein? Moi, je pense que la justice, notre pays, notre démocratie a besoin d'une justice qui soit forte et indépendante. Elle a besoin d'un parquet qui soit indépendant pour la conduite des affaires individuelles. Mais bon, force est de constater que ça fait pas l'unanimité. Ça fait pas l'unanimité, notamment chez les politiques.
Il y a toujours une tentation.
Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la majorité des politiques soient d'accord pour renforcer les garanties statutaires du parquet. Et je trouve ça éminemment dommage.
Il y a une part importante aussi de votre vie que vous décrivez dans votre livre, qui est le moment où vous êtes au parquet de Bobigny.
Ouais.
Alors, c'est le deuxième plus gros parquet de France après Paris.
Ouais.
Vous avez le droit à peu près à tout ce qui peut exister en termes d'échantillons, de variétés, de crimes, de délits, tout ce qui est possible. Vous parlez beaucoup des violences faites aux femmes.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui a progressé tout au long de votre carrière?
Non, pas tout au long. C'est quelque chose que j'ai découvert assez tard parce que au début de ma carrière, franchement, c'était pas un contentieux de masse, comme on dit. Il n'y avait pas une attention particulière pour les violences faites aux femmes. Hein. Et je pense qu'on les traitait pas fort. On les traitait était sûrement pas très bien. Je m'y suis beaucoup intéressé en réalité parce que j'ai été appelé en réalité à faire une sorte de retour sur moi-même et à un moment donné de ma vie à m'interroger sur le sens de ce que je faisais. Et j'ai compris que j'étais pas dans le bon sens. J'étais allé à un colloque dans le grand amphi de la Sorbonne où j'étais missionné par le ministère de la Justice pour défendre la médiation en matière de violence conjugale. Et je me suis fait tomber dessus. Il y avait des féministes dans l'amphi et des associations.
Et vous avez découvert une autre réalité?
Je me suis fait tomber dessus et puis j'ai quand même écouté les arguments qu'on m'opposait et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai compris que ce que je prenais n'était pas bon. Donc, j'ai plein de défauts, mais je pense être honnête intellectuellement. Donc, j'ai complètement revu ma façon de faire. Et lorsque je suis arrivé à Bobigny, où effectivement c'était un contentieux de masse très important, j'ai lancé une politique pénale qui n'était pas du tout celle que j'avais défendue à la Sorbonne. J'ai interdit la médiation pénale dans mon parquet. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de médiation pénale en matière de violences faites aux femmes. C'était interdit. Et puis on s'est lancé sur une stratégie de une politique pénale, on va dire offensive, hein, où
avec des peines plus lourdes,
et puis des placements en garde à vue systématiques des conjoints violents pour arriver à les exfiltrer du domicile et les faire partir. Et puis le téléphone, surtout.
Le téléphone, ouais. Que vous mettez en place avec quelqu'un, une
avec
femme.
Avec Ernestine René.
Voilà, qui vient vous voir en vous disant, il y a ce système qu'on peut utiliser.
Est-ce que vous êtes d'accord pour l'expérimenter? Donc on a été le premier parquet à l'expérimenter à l'époque.
Donc c'est un téléphone où on a un bouton qui alerte.
Un bouton poussoir qui alerte. C'est comme pour les personnes âgées qui tombent, hein. C'est le même système, le bracelet, on avise une centrale qui vérifie l'appel, et puis si l'appel est vérifié, les services de police sont avisés immédiatement. Donc on l'a expérimenté à l'époque, sans un sou vaillant de l'État, puisque c'était pas dans les textes. On l'a fait avec l'argent du Conseil général de Seine-Saint-Denis, et un peu du Conseil régional, et après l'avoir expérimenté 2 ou 3 ans, ben, ça s'est appliqué, et aujourd'hui c'est généralisé.
Il y a aussi une formation importante aussi sur l'accueil des femmes qui viennent porter plainte, qui viennent, il fallait une formation des policiers, ça c'était pas non plus très 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 naturel. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a de plus en plus de féminicides? C'est qu'on en parle plus, ou c'est qu'il y en a plus, et qu'il y a une forme de violence qui se redéveloppe sur cette partie de la société?
Peut-être parce qu'on en parle plus, c'est possible, mais je pense qu'il y a il y a de plus en plus de violence dans notre société. Il y a des troubles psychologiques et psychiatriques qui sont plus ou moins bien traités. Il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qu'on laisse dehors avec des traitements ambulatoires. Alors, je veux pas dire que tous les assassins de leur conjoint femme sont des malades mentaux. C'est pas tout ce que je veux dire. Et puis, il y a cette emprise, ce mécanisme de contrôle et de maîtrise du conjoint frappeur sur son conjoint victime qui fait que tout ça est compliqué. Voilà. Moi, je pense que les féminicides, on les évitera jamais complètement. Faut pas rêver. Le chiffre zéro, à mon avis, n'existera jamais là-dessus, malheureusement, même si tout le monde le voudrait. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'en détecter beaucoup plus grâce au suivi de certaines situations pour empêcher les gens qu'on a pu détecter de passer à l'acte, avec des réponses judiciaires adaptées. Et là, effectivement, on peut être plus efficace.
Donc, vous enchaînez donc Bobigny, qui est intense, où vous rencontrez vous formez plein de jeunes magistrats, vous enchaînez derrière Paris avec ce qu'on sait sur les attentats, et puis à un moment vous devenez en 2018 procureur général. Une espèce de, d'un seul coup c'est une falaise mais dans un autre style, c'est-à-dire que
c'est un changement de vie. C'est un changement de vie qui est radical, puisque moi j'étais arrivé au bout des... On peut pas être chef de juridiction, donc on peut pas être procureur plus de 7 ans dans le même tribunal.
Bon, donc Paris, c'est le Graal, comme on dit.
Je devais quitter Paris et...
Et vous vouliez pas retourner à Carcassonne.
Comme je n'avais pas envie d'être procureur général de cour d'appel, ça ne m'intéressait pas, il y avait que la cour de cassation. Donc je me suis retrouvé dans une forme de... Après, c'est une richesse, c'est une forme de deuxième vie, où j'ai eu une vie complètement différente de la précédente, puisque j'étais plus sur le terrain, j'avais plus d'urgence. J'étais beaucoup plus dans la réflexion, surtout, et la réflexion, l'écriture, voilà.
C'était une autre vie.
C'est une autre vie.
Ça doit être compliqué, la transition.
Oui, j'ai eu une transition compliquée pendant quelques mois.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Quel rôle la montagne joue-t-elle dans votre vie?
Elle a joué un rôle très important, parce que quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très, très réservé, à la limite de la timidité, très anxieux, qui n'avait pas forcément vraiment confiance dans ses capacités. Je n'étais pas sûr de moi du tout. Et la montagne, ça m'a ouvert d'autres horizons. Et puis, je pense que ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé beaucoup à mieux gérer mes peurs, mes stress. Parce qu'en montagne, vous avez beaucoup de situations dangereuses. Hein, il y a beaucoup de dangers objectifs. Donc, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a appris à mieux me contrôler. Ça m'a appris
à gérer les crises.
À m'aider à gérer les crises. Oui, oui, tout à fait. Prendre les bonnes décisions en gardant son sang-froid. En fait, je pense que ça m'a à la fois mûri, construit, façonné.
C'est pour ça que vous avez emmené et que vous emmenez peut-être encore certains membres de vos équipes
montagne. Oui, oui, parce qu'effectivement, c'était la sortie team building, hein, comme on dit en anglais.
C'est ça, vous les sortiez une fois par an pendant
un
week-end.
C'est aussi intéressant de voir le comportement des gens sur le terrain. On les connaît mieux après.
Ils se révèlent dans ces cas-là.
Ouais.
Elle ressemble à quoi la robe du président de la Cour de cassation ?
Ouf, c'est une robe compliquée. C'est une robe...
C'est ce que j'ai découvert en lisant le livre.
Vous avez trois couches. Vous avez d'abord une robe qui est rouge. Donc, ce n'est pas que la robe du premier président de la Cour de cassation. C'est celle du premier président, du procureur général, des présidents de chambre et des premiers avocats généraux. Donc, vous avez une première couche qui est une robe rouge. Et dessus, vous avez un grand manteau, donc une seconde couche. Avec
qui a un sens.
Oui, qui a un sens. Il faut la mettre dans un sens et pas dans l'autre, comme ça m'est arrivé une fois. Et c'est une robe qui est lourde, qui est compliquée, qui s'appelle le grand manteau. Et qui est fait avec de la serge ou de la laine et de la fourrure.
C'est lourd, c'est chaud, et de la vraie fourrure.
Et de la fourrure, oui. Qui est de l'écureuil de petit gris de Russie. Vous imaginez le nombre qu'il faut.
En plus, vous êtes grand.
Ouais. Et puis, vous avez encore au-dessus une toge qui est elle aussi en fourrure. Donc, on a très très chaud.
C'est pas
là-dedans.
Un truc pour l'été.
C'est pour ça que je l'évoque dans le livre. Je pense que ça serait sain que ça évolue. Il faut garder les symboles dans la justice parce que la robe et les symboles, elles signent aussi la distance.
Oui, c'est une protection pour vous et ça marque aussi.
Et la mise à distance de la violence, du procès, etc. Donc, il faut surtout garder les symboles. Il ne faut pas les abandonner. Mais par contre, ce costume, on l'a repris au début de l'Empire. Du premier empire après qu'il ait été abandonné pendant la Révolution. Donc il a plus de 220 ans. Mmh. Il mériterait peut-être d'être toiletté un peu dans
léger.
Le sens de la simplicité. Mmh. Voilà. Et puis être un peu plus écologique, quoi. Mmh. On pourrait proposer des fourrures de synthèse.
Ouais. Vous l'avez gardée cette robe ?
Oui, 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 bien sûr.
C'est un investissement parce que je comprends aussi qu'elle est faite sur mesure. Ça doit coûter assez cher.
Elle est très chère.
Alors donc elle est rangée chez vous sous une housse.
Tout à fait. Peut-être un jour je la donnerai à un collègue.
C'est vrai qu'en fait, on peut transmettre les
robes. Oui, oui. Ouais. J'espère un jour la donner à un collègue.
Vous avez déjà quelqu'un en tête ?
On verra, vous savez.
Oh, ça
il
ne
faut pas
oui.
être pressé.
Non,
faut
non,
pas
non.
Être pressé.
Vous préférez qu'on vous appelle comment ? Commissaire Molins, monsieur le procureur, monsieur le juge, votre honneur ?
Ah, moi,
vous avez le droit à tout.
Moi, de tous les titres que j'ai eus, celui que je préfère, c'est monsieur le procureur. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je m'en cache pas. Les autres, je ne les ai pas eus.
Hein. Non, non, mais c'est étonnant que les gens vous parlent comme ça.
Ça signe là aussi la méconnaissance de l'institution par nos concitoyens. Les gens mélangent tout. Quoi.
Mais pourtant, il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de films sur la justice.
Mais vous savez.
Alors, certes, américaines, beaucoup, mais françaises aussi.
Il y a beaucoup de séries qui racontent beaucoup de bêtises. Hein. Je veux pas faire de la pub à la radio, mais j'en connais qu'une, moi, qui est proche de la vérité.
C'est laquelle ?
Engrenage.
C'est ce que tout le monde dit.
Mais Engrenage, ils ont des conseillers techniques, policiers et magistrats. Donc,
c'est ce que Martine Montaille disait aussi.
Le nombre de séries qui sont bien gentilles, qui sont très bien sur le plan...
qui sont
des séries qui sont passionnantes, qui sont distrayantes, mais c'est pas la justice française.
Est-ce que quand on est un magistrat, on a le droit d'avoir des états d'âme ?
Oui, mais il faut les garder pour soi. Alors, état d'âme par rapport à quoi vous pensez au travail qu'on fait
Par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux situations. Vous racontez, par exemple, que quand vous êtes en Corse, il y a un certain nombre de décisions qui sont rendues pas toujours en suivant le droit.
Oui, bien sûr qu'on peut avoir des états d'âme. Moi, il y a des décisions de justice dans ma vie de magistrat qui m'ont révolté. J'ai été révolté par le classement sans suite de cette affaire financière à Carcassonne.
Tout au début de votre carrière,
oui,
c'est votre première affaire
imposée par le parquet général. Le verdict corse que j'évoque, il m'a révolté. Donc on a le droit d'être révolté, c'est humain. Hein.
D'ailleurs, sur la Corse, vous expliquez comment est-ce que vous arrivez à contourner. C'est-à-dire que vous remontez les dossiers à Paris, vous les examinez avec d'autres magistrats pour trouver les failles.
Et on faisait des pourvois et ça marchait. Hein.
Et ça marchait. Vous faites rejuger les affaires qui en Corse peuvent être jugées d'une certaine façon.
Fois.
Ailleurs sur le continent, de façon à ce que la peine soit plus en rapport avec le délit.
Donc,
vous êtes un peu coquin, comme vous dites.
Des états d'âme, on peut en avoir. Par contre, ils n'ont pas à interférer sur les prises de décision. si vous voulez, on peut sentir plus ou moins bien certaines situations, ça on est des hommes et des femmes comme les autres. Par contre, les affects et les questionnements moraux n'ont pas à venir interférer sur une décision. Je l'explique aussi ça dans le livre, quand j'évoque l'affaire Lambert à la Cour de cassation, moi j'ai passé une ou deux nuits blanches, j'avais des tas de questionnements sur la pertinence et la justesse des arguments, sur l'acharnement, la fin de vie, etc. Puis à un moment donné, j'ai compris que je faisais fausse route. Mes questionnements n'avaient rien à voir dans le dossier. J'étais dans l'application de la loi et son interprétation, point barre. Les questionnements de François Molins, ça n'avait rien à faire dans le dossier. On demandait l'avis du procureur général, ce qui était tout à fait différent. Et je devais me décider en termes juridiques et uniquement juridiques. Et c'est comme ça qu'on devient indépendant en réalité. Parce que...
C'est marrant parce que ça arrive... C'est un questionnement qui vous arrive assez tard.
Mais j'avais déjà eu avant. La vraie indépendance, elle est statutaire, hein, parce qu'il faut avoir des règles qui vous protègent, mais elle est aussi personnelle. Elle passe par le fait d'identifier ses faiblesses et ses dépendances pour mieux les surmonter quand elle les a identifiées. Parce que si on est dépendant de ses affects, on n'est pas indépendant. Voilà. Donc c'est un exercice quotidien, en fait.
Pourquoi est-ce que vous dites que la lutte contre le terrorisme, c'est addictif ?
Parce que ça fait partie de ces spécialités où les enjeux sont tels et on a une telle conscience, finalement, de ce qu'on fait, de l'utilité de la mission, que c'est difficile d'en partir, quoi. C'est addictif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On finit par y prendre goût.
Ça veut dire que les premiers attentats qui ont eu lieu après que vous soyez partis, il vous manquait quelque chose ?
Ah non, non, ça ne veut pas dire qu'on aimerait avoir d'autres attentats pour s'en occuper.
Non, hein. Mais c'est pas du tout ce que. Il y a quelque part une forme de.
Mais il y a une forme d'addiction dans ce travail, effectivement, qui demande beaucoup d'énergie et finalement auquel vous consacrez tellement de vous-même que c'est difficile d'en sortir. Alors qu'en fait, je pense que il faut pas, quand on est magistrat, je pense que c'est pas bon de s'enfermer trop longtemps dans les mêmes spécialités. Il faut au contraire changer de spécialité pour essayer de s'enrichir et d'avoir de nouvelles cordes à son arc. Et c'est comme ça qu'on progresse.
Qui sont les bébés Molins et à quoi ils ressemblent ?
Ah, les bébés Molins, ouais. Oui, le bébé Molin, c'est le nom qui a été donné à mes jeunes collègues de Bobigny. Ben, c'est des magistrats, c'est des jeunes qui maintenant sont moins jeunes, hein, puisqu'ils ont entre 45 et 50 ans maintenant. Hein.
Vous les avez réceptionnés à la sortie de l'école de magistrature.
C'est des jeunes très bien, qui sont compétents, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment donner du sens à ce qu'ils font et qui ont une vraie colonne vertébrale. Voilà. Et qui, je pense, ont tous une certaine idée de la justice.
C'est une fierté ?
Oui. Oui, oui, on peut le dire.
Ça fait quoi de vivre au couvent pendant 2 mois et demi ?
Ben c'est très bien de vivre au couvent.
Parce que ça aussi, c'est une période un peu particulière. Oui. C'est la fin de votre expérience corse. Votre famille est rentrée sur le continent et vous rentrez au couvent.
Voilà. Bon, comme mon épouse était rentrée à Lyon avec les enfants pour la rentrée scolaire et que moi, je n'étais pas encore sûr de pouvoir la rejoindre, en réalité, comme elle avait des amis bien placés dans le milieu du clergé monastique de Lille, elle avait trouvé que c'était intéressant de me confier. Au moins, elle était sûre que je serais sage et que j'aurais une vie
que vous
paisible
seriez nourri et logé.
Voilà, et logé, etc. Donc, elle m'a mis effectivement chez les nonnes, chez les sœurs bénédictines au couvent d'Herbalunga.
Ça ne devait pas être courant, ça n'avait pas dû leur arriver souvent de vivre pendant 2 ans, 2 mois et demi avec un homme dans les lieux.
Je pense que ça leur était jamais arrivé. Bon, c'était des vieilles dames. Hein. La plus jeune avait 62 ou 63 ans et la mère supérieure en avait 90. Mais c'est une expérience, j'ai jamais été aussi zen de ma vie.
C'était le grand écart quand même.
Oui, mais il faut comprendre, il faut y être allé pour comprendre. Et c'est des endroits où en réalité, où vous oubliez, vous méditez sûrement plus qu'ailleurs et ça vous permet d'accéder à une paix, une sérénité que vous n'auriez pas ailleurs parce que vous vous détachez rapidement de tout. Et donc, c'est effectivement une très belle expérience.
Vous n'y êtes jamais retourné ?
Non, je n'ai pas eu l'occasion, mais je suis resté en lien pendant jusqu'à sa mort avec la mère supérieure et la sœur qui s'occupait d'elle.
J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson ou une musique qui vous accompagne dans la vie ? Quelque chose que vous écoutez, soit pour vous détendre, soit pour vous remonter le moral, soit pour vous mettre en forme ?
Alors, on m'a déjà posé la question 2 ou 3 fois. Il y en a 2, en fait, que j'aime beaucoup. Une que j'aime beaucoup, mais que j'écoute pas forcément très souvent, c'est le Candles of Seis de Pablo Casals, hein, qui est devenu un peu un symbole de paix. Et sinon, j'aime beaucoup je l'écoute de temps en temps, la musique du film Mission. Vous savez, la mélodie avec la... On me dit ça clarinette, je ne suis pas musicien moi, mais...
Elle vous touche.
Voilà, j'adore ce morceau, il me touche.
Merci à Baptiste Dupin pour l'enregistrement de cet entretien et la production de ce podcast. Merci à Lucille Cousin et Béatrice Moedine pour la mise en ligne et la mise en valeur de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à noter ce podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.